Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes au chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 15 à 17, notre Seigneur Jésus-Christ qui fait un fouet avec des cordes et qui chasse du temple les vendeurs du temple, les changeurs du temple. Ils renversent leurs tables et il met à la porte tous ceux qui faisaient du trafic dans le temple. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors nous en sommes à la page 28 sur le polycopie qui contient les commentaires des chapitres 1 à 5 de Saint Jean, milieu de la page. Je vous ai dit la dernière fois que beaucoup de pères associent cette condamnation très forte, cette sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ à la condamnation de la simonie, la vente des sacrements. C'est tellement un des péchés les plus graves que peut commettre un religieux, un homme de Dieu, de vendre des sacrements pour l'argent. Puis qu'un prêtre comprenne et que les fidèles également comprennent bien que les sacrements n'appartiennent pas au prêtre. Il est dispensateur des sacrements. Il est serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc un prêtre qui vendrait les sacrements commettrait non seulement un vol en vendant quelque chose qui ne lui appartient pas, mais également un sacrilège épouvantable en donnant un prix d'argent, quelque chose de surnaturel, de spirituel. Cette sainte colère s'applique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ contre les simoniaques, tous ceux qui vendent les sacrements pour de l'argent. Donc il faut non seulement jamais faire ça pour un prêtre, mais en même temps jamais donner l'impression qu'on donne un sacrement pour des histoires d'argent. Il faut bien séparer les deux choses. Je voudrais aussi également répondre à une question qui m'a souvent été posée. J'avais parlé la dernière fois des honoraires de messe. J'ai expliqué que les honoraires de messe, ce n'est pas du tout quand on donne un honoraire pour une messe qui est demandée à un prêtre, ça n'a rien à voir avec la simonie. C'est pas la valeur de la messe qui est payée par un 18 ou 20 euros. C'est pas ça du tout. C'est tout simplement donner au prêtre un moyen de vivre. Donc les honoraires de messe, il n'y a absolument rien de répréhensible avec cela. Je rappelle que le prêtre n'a jamais le droit d'utiliser les honoraires de messe avant que la messe ait été célébrée. Donc lorsqu'on nous donne des honoraires de messe, ça, il faut que les gens le comprennent bien, lorsqu'on nous donne des honoraires de messe, pour des messes à dire, le prêtre va noter ses intentions de messe sur son carnet de messe, et ensuite va mettre cet argent à part. Il n'a pas le droit de mettre cet argent dans la caisse commune ou dans son propre portefeuille pour l'utiliser tout de suite. Il n'a pas le droit d'utiliser l'argent d'une messe, d'un honoraire de messe, tant que la messe n'a pas été célébrée. Une fois que la messe a été célébrée, il a le droit à ce moment-là d'utiliser pour des fins personnelles l'argent qui lui a été donné comme honoraire pour la messe qu'il vient de célébrer. Mais tant que la messe n'est pas célébrée, il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est quelque chose d'important. Voyons un texte ici de Saint Augustin, au milieu de la page 28. L'action de notre Seigneur faisant un fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs hors du temple renferme un sens mystérieux et caché. Donc en fait, notre Seigneur Jésus-Christ se met en colère contre le péché. Le péché c'est de donner une valeur matérielle, une valeur vénale à des choses surnaturelles, des choses spirituelles. Donc tout homme, dit saint Augustin, qui ne cesse d'ajouter de nouveaux péchés à ceux qu'il a commis, se fait comme une corde de ses iniquités. Lors donc que les hommes souffrent parce qu'ils sont coupables, qu'ils reconnaissent que Dieu se fait comme un fouet avec des cordes et les avertit de changer de conduite, sinon ils entendront à la fin de leur vie cette parole terrible, liez-lui, les mains et les pieds. Donc à chaque fois que je commets un péché, si vous voulez, je rajoute quelques nœuds à ma corde, comme une corde à nœuds, si vous voulez, qui va devenir de plus en plus longue. Et plus la corde est longue, plus notre Seigneur Jésus-Christ peut utiliser cette corde pour lier les membres du pécheur. Si la corde est très courte, on ne peut pas faire grand-chose avec une corde très courte, on ne peut pas lier complètement un prisonnier avec une corde très courte. Par contre, si la corde est très longue, à ce moment-là, il y a amplement la dimension nécessaire pour lier les mains et les pieds et le cou du condamné. Donc, les pères de l'Église comparent les iniquités à cette fabrication d'une corde. Le fouet dont parle Saint-Luc au chapitre 2, verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, ce fouet est donc aussi un fouet spirituel. C'est Dieu qui châtie le pécheur. J'ai déjà expliqué, j'en parlerai sur un peu le sermon que je vais donner dimanche prochain, puisque j'enregistre ce cours 17 décembre, et dimanche prochain je vais un petit peu expliquer cela, à savoir que pour expliquer ce que représente justement ces châtiments. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on commet un péché, il y a un châtiment qui doit être payé, parce que le péché offusque Dieu d'une façon extraordinairement grave. Et donc il y a toujours un châtiment après le péché. Ce châtiment, il faut qu'il soit payé. Soit il va être payé, je ne me rappelle plus si j'ai déjà expliqué ça, soit il va être payé de façon éternelle en enfer. L'enfer est un châtiment éternel, donc une personne qui meurt en état de péché mortel va devoir payer son péché mortel, et le châtiment du péché mortel non pardonné pour une âme qui est passée du temps à l'éternité, c'est le feu de l'enfer. Donc la peine du temps, la peine des sens, c'est deux peines de l'enfer, la peine des sens c'est la peine du feu, la peine du temps c'est la peine par laquelle nous ne verrons jamais Dieu, sont des conséquences, sont des châtiments à cause d'un péché qui n'a pas été pardonné. On peut aussi en enfer, on ne peut pas diminuer le châtiment, c'est impossible, puisqu'on n'est plus dans le temps. Pour pouvoir diminuer un châtiment, il faut qu'il y ait donc un changement au niveau du châtiment. Or, qui dit éternité dit absence de changement. Donc, une fois qu'on est dans l'éternité, on ne peut plus changer la quantité de châtiment à payer, le poids du châtiment à payer. Pour cela que quelqu'un qui tombe en enfer avec un châtiment à payer pour son péché, comme il ne peut pas diminuer ce châtiment même avec les siècles qui passent, va donc garder cette culpabilité et va devoir payer son châtiment pendant toute l'éternité en enfer. Mais celui qui est au purgatoire, nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Étant dans le temps, peut y avoir une diminution du châtiment. Donc imaginez quelqu'un qui est envoyé au purgatoire avec un poids de péché à payer pour des péchés déjà pardonnés, attention, le purgatoire a pour but d'expier les péchés déjà pardonnés. Puisque nous sommes encore dans le temps, il va y avoir donc une diminution de la peine à payer. Imaginez quelqu'un qui rentre avec, c'est une image, au purgatoire avec 20 tonnes de péchés à payer, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, qui fait pénitence au purgatoire, sa dette devant Dieu va diminuer. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la meilleure façon, la façon la plus rentable de payer ses péchés, de diminuer donc le châtiment dû au péché, c'est de payer ces choses-là ici-bas sur la terre. Si je paye mes péchés ici-bas sur la terre, c'est beaucoup plus rentable pour moi, parce que évidemment sur la terre on est encore dans le temps, donc on peut diminuer cette charge de péché qui est sur nos épaules, et Dieu va alléger cette charge. Une fois qu'on est au purgatoire, l'allègement de la charge se fait de façon totalement passive. C'est pour ça que beaucoup de pères de l'Église pensent qu'une âme qui est au purgatoire ne peut strictement rien faire pour nous ici, tant qu'elle est au purgatoire. C'est uniquement lorsqu'elle sera passée au paradis qu'elle va pouvoir aider ses bienfaiteurs et renvoyer l'ascenseur en quelque sorte aux personnes qui ont prié pour cette âme du purgatoire. Mais ici-bas, c'est pas la même chose. Donc, ici-bas, on est dans le temps, et donc si vous choisissez de faire pénitence par vous-même, en choisissant vous-même vos propres pénitences, ou en acceptant les pénitences que le bon Dieu permet que nous ayons par sa volonté de bon plaisir, tout simplement, eh bien, c'est un moyen extraordinaire de réduire la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Il est beaucoup plus rentable donc de faire pénitence ici-bas pour réduire cette peine que de faire pénitence au purgatoire. Imaginez quelqu'un qui de façon personnelle fait pénitence pour payer la peine temporelle de ses péchés déjà pardonnés. Eh bien, Dieu va alléger cette âme de cette peine de façon beaucoup plus importante que si cette personne était au purgatoire. D'où la nécessité de faire pénitence. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Alors, un texte de Saint Bède le Vénérable, au milieu de la page 28, on avance. Après avoir fait un fouet avec des cordes, le Christ chasse les vendeurs hors du temple, c'est-à-dire qu'il exclut du sort et de l'héritage des saints ceux qui se trouvent emmêlés parmi les saints, pratiquent la vertu par hypocrisie ou commettent ouvertement le mal. Donc, chassant les vendeurs hors du temple, on peut dire que c'est un peu le symbole de l'excommunication. On chasse, on exclut du sort de l'héritage des saints. C'est ça l'excommunication. Pourquoi ? Parce que ce sont parfois des gens qui pratiquent la vertu par hypocrisie ou qui commettent ouvertement le mal. Ceux qui pratiquent la vertu par hypocrisie ou qui commettent ouvertement le mal seront chassés du temple parce qu'ils sont considérés comme des vendeurs des choses divines. Donc non seulement le Christ va chasser les vendeurs, mais il va chasser également les brebis et les bœufs, pour montrer que leur vie comme leur doctrine sont également dignes de condamnation. Donc on chasse non seulement les fauteurs de troubles, mais également leurs fausses doctrines. Donc les bêtes qui étaient utilisées pour les sacrifices, comme les brebis et les bœufs, représentent la mauvaise doctrine de ceux qui utilisaient leur charge pour pervertir les âmes au lieu de les garder dans le bon chemin. Donc il n'y a pas simplement le propriétaire des bœufs et des brebis qui est chassé, mais les brebis et les bœufs eux-mêmes. Troisièmement, le Christ va jeter à terre l'argent des changeurs, renverser leur table, parce que les réprouvés à la fin du monde se verront enlever jusqu'à la figure de ce qu'ils avaient été aimés. Donc oui, tout part. Le vendeur lui-même, les choses qui sont vendues, et même les simples tables sur lesquelles étaient exposées les choses qui vont être vendues. Donc ici, on parle de l'argent des changeurs, qui représente la figure de ce qu'ils avaient aimé. Pourquoi ? Parce que sur la pièce d'argent utilisée par les changeurs, il y a une figure qui représente en général l'autorité politique. Donc ça montre justement que quelqu'un qui meurt dans le péché va devoir tout abandonner, pas simplement sa personne, mais aussi tout ce qu'il a, toutes ses choses matérielles et tout ce qu'il a aimé de façon déraisonnable ici-bas sur la terre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ commande de faire disparaître du temple la vente des colombes, pas simplement les brebis et les bœufs, mais même les colombes, pour nous apprendre que la grâce de l'Esprit, que saint que nous recevons gratuitement, doit être aussi donné gratuitement. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Encore une fois, je n'ai pas le droit de donner quelque chose qui ne m'appartient pas. Si je donne quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est une injustice, c'est en soi un vol. Donc attention à ça, de ne pas donner des choses qui ne m'appartiennent pas. Pour pouvoir donner quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois avoir l'autorisation du propriétaire légitime de la chose que je souhaite donner. Donc aussi, les pères insistent donc sur ces différents degrés, le lieu d'abord, le temple, ensuite les âmes qui sont représentés par les vendeurs, et ensuite tout ce qui est vendu, les bœufs, les brebis, les colombes, les pièces d'argent, etc. Tout va disparaître. Donc, même les tables sur lesquelles l'argent d'échangeur était exposé. Alors, Origène précise que le temple peut être considéré comme la figure de l'âme attentive à son salut. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu habite en elle. Une âme qui est en état de charité, c'est une âme dans laquelle la grâce sanctifiante va pouvoir survivre. Donc le temple, n'oubliez pas que notre âme devient le temple du Saint-Esprit par le baptême. Donc le lieu dans lequel les changeurs vont exposer leurs animaux et vendre leurs animaux représente l'âme. Si l'âme est encombrée de choses matérielles et préoccupée beaucoup trop des choses matérielles, cette âme ne va pas pouvoir se rapprocher du bon Dieu, c'est absolument impossible. Voilà ce que dit Origène, le temple peut être encore considéré comme la figure de l'âme attentive à son salut, parce que la parole de Dieu habite en elle, et qui, avant d'avoir reçu les divins enseignements de Jésus-Christ, servait d'habitation aux passions terrestres, aux instincts des animaux sans raison. Lorsqu'une âme reçoit, au contraire, la lumière de la grâce par le baptême, mais à ce moment-là, elle va rejeter de son sein toutes les passions terrestres, les animaux sans raison, c'est-à-dire tout ce qui est représenté par tout ce qui est représenté par le monde. Une âme qui vit de façon mondaine avant le baptême ne doit pas pouvoir conserver toutes les choses qu'elle conservait plus ou moins légitimement avant son baptême. Une fois qu'elle est baptisée, il faut que tout change. Alors, voyons un petit peu les explications données par Origène. On parle d'abord du bœuf qui sert à la culture des champs, qui est le symbole des passions de la terre. Le bœuf ne se préoccupe pas d'autre chose que de tracer son sillon derrière la main du pape, du maître. Cela représente donc les passions de la terre qui contrôlent complètement, qui vont contrôler complètement les trois concupiscences des yeux, de la chair et d'orgueil. Donc le bœuf représente et le symbole des passions de la terre, alors que la brebis au contraire, qui était considérée par les anciens comme complètement stupide, est la figure des mouvements contraires à la raison. Donc, lorsqu'on agit contrairement à sa raison, on va agir comme une brebis, c'est-à-dire qu'on va agir de façon stupide. Il n'y a rien de plus stupide que de se lancer dans des mouvements contraires à la raison. La stupidité est une espèce de folie. Au contraire, celui qui vit en état de grâce va faire très attention de garder dans sa vie de tous les jours le contrôle de ses passions. La colombe, elle, est l'image des âmes légères et inconstantes. Et les pièces d'argent qui sont jetées par Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, hors du temple, ces pièces d'argent représentent la figure de ceux qui portent l'apparence de la vertu que Jésus-Christ chasse par sa divine doctrine en défendant que la maison de son père soit plus longtemps une place publique. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Vatican II. Avec Vatican II, la maison du père est, de maison de prière qu'elle était, devenue une caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Donc, si ma maison a été pendant un certain temps une caverne de voleurs, c'est à moi de la nettoyer, de la changer complètement pour qu'elle redevienne une maison de prière. Et si ma maison de prière est déjà vivante en moi, je dois faire très attention à ne pas introduire dans cette maison de prière des choses qui vont me pousser à éliminer le bon Dieu. C'était avant le rôle des portiers. Le portier, c'était le clerc, donc quelqu'un qui se préparait au sacerdoce. Porter avait pour rôle de garder la porte pour empêcher les gens qui étaient mal habillés de rentrer dans le lieu du sanctuaire, pour empêcher les gens qui étaient méchés de rentrer dans le sanctuaire, etc. Le rôle du portier consistait aussi à faire sortir les catéchumènes qui, à l'époque, n'avaient pas le droit d'assister à toute la messe. Ils assistaient qu'aux premières parties, à la première partie de la messe, et ils étaient priés de quitter le Saint-Sacrifice de la messe à la fin de l'offertoire. Pourquoi ? À cause de la discipline de l'arcane. Ça veut dire que les païens les gens qui n'étaient pas encore baptisés n'avaient pas le droit d'assister à la Sainte Messe. Bon, ces choses ont depuis changé. Même quelqu'un de non catholique peut assister à la Sainte Messe. Donc on voit ici une comparaison entre le texte de Saint Bède et le texte d'Origène. Il y a d'ailleurs certaines difformités entre les deux textes. Encore une fois, beaucoup de pères de l'Église, surtout ceux qui vivaient à des époques différentes, n'ont pas forcément la même interprétation de l'Écriture sainte. C'est pour ça que ça rend l'étude de l'Écriture sainte tellement compliquée. Alors, autre texte de Saint Bède, « Ayez le zèle de la maison de Dieu. » Si nous voyons un frère qui appartient à la maison de Dieu, rempli d'orgueil ou donné à la médisance, esclave de l'ivrognerie, enfoncé dans la luxure, troublé par la colère au sujet de toute autre faute, autant que c'est possible pour nous, reprenons-le pour qu'il change ce qui est corrompu et pervers. » Donc il faut prêcher par l'exemple. Si nous ne pouvons corriger en ces choses, n'acceptons pas leur turpitude sans une peine amère en nos cœurs. Dans la maison de prière où le corps de Dieu est consacré, où sans aucun doute les anges sont toujours présents, n'acceptons aucune folie qui vienne entraver nos prières ou celles de nos frères. Donc attention à cela. C'est un passage important, on appelle ça la sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est capable d'avoir une sainte colère. Nous, on aurait beaucoup plus de mal. Attention à ça. Souvent, les fidèles prétendent s'être mis en colère pour une sainte colère. Mais attendez, saintes colères sont relativement rares. Les occasions de sainte colère sont relativement rares. Donc, il faut avoir cette conscience de la présence de Dieu. Pour avoir le zèle de la maison de Dieu. Rappelons-nous que les anges de Dieu sont partout autour de nous et voient tout ce que nous faisons. Imaginez quelqu'un qui commet un péché, bien il commet un péché devant son ange gardien. C'est quelque chose de terrible. Alors le bon Dieu permet parfois, encore une fois, que pour corriger certaines choses qui ne vont pas en nous, on ait certaines turpitudes, certains péchés, pour nous humilier, parce que l'humilité ouvre la porte de l'âme. Et n'oublions pas, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, que ces pénitences que le bon Dieu nous demande de pratiquer, qu'il propose à notre sagacité, sont soit un châtiment pour expier justement les péchés déjà pardonnés, soit une épreuve pour mesurer le degré de charité que nous avons véritablement pour notre Seigneur Jésus-Christ, soit une leçon pour nous rappeler qu'on ne peut rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ. On avance, page 29. Versets 18 à 22. De Saint Jean chapitre 2. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rétablirai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et vous le rétabliriez en 3 jours? Et il parlait du temple et de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ annonce qu'il va détruire ce temple, il parle de la fin de la Passion. Il parle en fait de la destruction de ce temple de Dieu qui était le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Après 3 jours, je le rétablirai. Donc, il réaffirme ce qu'il a déjà affirmé plusieurs fois, savoir que le troisième jour, après avoir été tué par les Juifs, il ressusciterait d'entre les morts. Alors, avançons, donc on est à la page 29. Alors, essayons d'expliquer ces paroles un peu complexes. Il est bien dit au verset 21 que notre Seigneur Jésus-Christ parle du temple de son corps. C'est à nous de faire tout pour respecter justement ce temple de notre corps et ne pas le laisser contaminer par les choses du monde. Voici donc le sens de ces paroles. De même que je purifie ce temple inanimé du trafic coupable et des crimes dont vous le souillez, ainsi je ressusciterai après 3 jours, lorsque vous l'aurez détruit de vos propres mains, ce temple de mon corps, dont ce temple matériel est la figure. Donc notre Seigneur fait une allusion, si vous voulez, au temple de Jérusalem, qui a été construit en 46 ans, et au temple qui est notre âme en état de grâce. Notre âme en état de grâce a encore plus de valeur que le temple entier de la ville de Jérusalem. Parce que le temple de la ville de Jérusalem ne contenait que l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance? Très peu de choses finalement. Il y avait dans l'Arche de l'Alliance une urne qui avait fleuri, il y avait de la manne dans l'urne, et cette manne avait miraculeusement fleuri. Il y avait donc un vase qui contenait la manne elle-même, excusez-moi, et la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est pas la manne qui avait fleuri, mais la verge d'Aaron. Aaron qui était le porte-parole en quelque sorte de Moïse. C'était le frère de Moïse. Et Moïse ayant parfois des difficultés à parler, il faisait parler son frère. Donc la question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que je prends soin moi-même de purifier le temple de mon âme du trafic coupable et des crimes dont je le souille? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ m'avertit qu'il va revenir pour demander des comptes, puisqu'il va ressusciter le troisième jour, et ayant ressuscité le troisième jour, il va venir me demander des comptes sur l'usage que j'ai fait de mon temple personnel, ce temple de mon corps, dont le temple matériel est la figure, disent les pères. Donc je dois purifier ce temple inanimé du trafic coupable et des crimes dont je le souille. Chaque fois que je commets un péché, je souille mon âme, je souille mon corps, je souille mon temple personnel, et je vais donc devoir rendre des comptes de cette souillure supplémentaire qui est venue s'abattre sur mon temple, mon temple personnel. Donc c'est deux choses à la fois, le corps de Jésus et le temple qui se superposent. Le corps de Jésus et le temple de Jérusalem, allégoriquement c'est la même chose, me paraissent, disent les pères, être la figure de l'Église, qui est construite de pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint. Et aussi, conformément à ces autres paroles, vous êtes le corps de Jésus-Christ, les membres les uns des autres. Donc le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et le temple lui-même représente la figure de l'Église. La solidité du temple représente la solidité de l'Église. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a la même représentation. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ représente aussi la figure de l'Église. Ce n'est pas seulement la présence réelle, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est aussi une figure de l'Église catholique. De même que l'église matérielle est construite de pierres vivantes pour former une maison spirituelle, eh bien, ça va être la même chose ici. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de notre Seigneur Jésus-Christ représentent la même chose. C'est la figure de l'église catholique, une sainte, catholique et apostolique. Donc cet édifice de pierre semble renversé et les os du Christ semblent dispersés par le vent des adversités et des tribulations. Mais il sera établi et ressuscitera le troisième jour qui doit répandre ses clartés vers un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter le troisième jour, le jour de Pâques, mais il va ressusciter avec des caractéristiques physiques complètement différentes. Il ne sera plus tenu de manger pour survivre, il aura les privilèges des corps glorieux. Pouvoir traverser par exemple les murs sans passer par la porte, il va avoir cette luminosité, cette impassibilité, cette immortalité qu'on retrouve chez les corps glorieux. Alors, on continue l'explication donnée par les pères. Cet édifice de pierre semble renversé, les os du Christ semblent dispersés par le vent des adversités, des tribulations, mais il sera rétabli, ressuscitera le troisième jour, qui doit répandre ses clartés sur un nouveau ciel, sur une nouvelle terre. Donc, nouveau ciel, nouvelle terre, représente ici l'âme qui a retrouvé l'état de grâce. Si mon âme qui vit dans le péché, si vous voulez, mon corps devient comme de la boue dans laquelle les cochons vont venir jouer. Mais une fois que j'ai dispersé le vent des adversités, des tribulations, j'ai retrouvé les os du Christ, à ce moment-là, les choses sont complètement changées. Donc c'est une annonce ici de la résurrection qui va avoir lieu le troisième jour. Détruisez ce temple et en trois jours je le rétablirai. Les Juifs ont pris ça au sens fort, au sens propre, en disant comment donc ils comptent rebâtir ce temple en trois jours. En fait, ils parlaient du temple et de son corps. C'est-à-dire, vous détruirez ce temple par la crucifixion, le vendredi saint, mais sachez que je rétablirai le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, je rétablirai ce que vous avez cherché à détruire. Donc, de même, disent les pères, que le corps sensible de Jésus-Christ a été crucifié et enseveli avant de ressusciter. Ainsi, le corps mystique du Sauveur, composé de tous les saints, a été crucifié avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corps mystique du Sauveur? On retrouve la même idée. Ce corps mystique du Christ, c'est l'Église. Rappelez-vous la phrase des pères juste au-dessus. Le corps de Jésus, le temple, mais ces deux choses me paraissent être la figure de l'Église. Donc, on va retrouver la même figure de l'Église. Ici, à plusieurs reprises, donc le corps sensible de Jésus-Christ qui a été crucifié, qui a été enseveli avant de ressusciter le troisième jour, représente l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église va passer également par une voie purgative, une voie illuminative, une voie unitive. L'Église va continuer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le corps mystique du Sauveur, c'est-à-dire l'Église catholique, composée de tous les saints, a été crucifié avec lui. Donc il y a une véritable passion de l'Église, de même qu'il y a une passion dans notre Seigneur Jésus-Christ, une passion dans l'Église, de même qu'il y a une passion dans le corps mystique du Christ, à savoir, de même qu'il y a une passion pour le corps physique du Christ, de la même façon il y aura une passion pour le corps mystique du Christ, à savoir le corps de l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ. En effet, aucun de ces saints qui se glorifie en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle il est crucifié pour le monde. Donc la croix de notre Seigneur Jésus-Christ crucifie notre volonté propre sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ça veut dire prendre à bras le corps notre volonté propre et la mettre dehors. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir prendre la place de la volonté propre. C'est pour ça que Saint Isaïe dit bien, et Saint Jean-Baptiste le répète, qu'il va falloir aplanir les vallées, combler les vallées, araser les montagnes, pour que le terrain devant notre Seigneur Jésus-Christ soit parfaitement, parfaitement clair, parfaitement pur, parfaitement propre. Donc aucun de ces saints ne se glorifie en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle il est crucifié pour le monde. Aucun saint également qui ne soit enseveli avec Jésus-Christ ne ressuscite avec lui parce qu'il marche dans une saine nouveauté de vie. Mais aucun d'eux cependant n'a encore eu part à la bienheureuse résurrection. Donc ce corps qui va passer ce corps physique du Christ qui va passer trois jours dans le tombeau représente la passion de l'Église. La passion de l'Église qui va passer sur nous aussi, puisque nous sommes membres de ce corps mystique, de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ va mourir en son corps physique, eh bien, il va y avoir une certaine forme de mort spirituelle dans le corps mystique du Christ qui est l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ. Ça, c'est une notion qui est complètement déboulonnée, si vous voulez, par Jean-Paul II et par François. Pour eux, pour ces gens-là qui sont complètement modernistes, l'Église, c'est simplement une congrégation de personnes, c'est tout. Non, ce n'est plus du tout le corps mystique du Christ. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire à Saint Jean, qui est au pied de la croix, qui représente l'épiscopat, qui représente les prêtres qui viennent d'être ordonnés, il vient d'être ordonné quelques heures auparavant? Eh bien, Saint Jean représente l'Église. représente l'Église. Mère, voici votre fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu explique à sa mère, vous vous êtes occupé pendant tout ce temps de mon corps physique, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous occuper du corps mystique du Christ. Donc, il faut marcher, nous disent les pères, dans une saine, sainte nouveauté de vie. Rappelez-vous les rois mages qui arrivent à Jérusalem avec un grand attirail et tout le monde pâlit, comment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les rois mages vont devoir revenir chez eux par un autre chemin pour bien montrer que lorsqu'on a découvert notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas question de revenir à la maison avec le même libéralisme qu'on avait peut-être dans notre âme avant d'avoir rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut se glorifier en cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle il a été crucifié pour le monde. Pourquoi? Parce que cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ représente le corps mystique du Christ. À chaque fois que je communie au corps mystique du Christ. Je reçois le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je reçois le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que membre du corps mystique du Christ. Donc il faut marcher dans une saine nouveauté de vie. Une fois que j'ai découvert notre Seigneur Jésus-Christ, par une bonne confession, une bonne communion, je dois changer de vie. Rappelez-vous, encore une fois, les rois mages, ils rentrèrent chez eux par un autre chemin, parce que l'ange leur a fait comprendre que le roi Hérode cherchait l'enfant pour le faire tuer. Et bien donc, excusez-moi, j'ai encore perdu le fil de mes esprits. Je vous prie de m'excuser encore une fois si j'ai un peu de mal avec ces derniers cours, mais j'ai pas encore complètement récupéré tous mes esprits après ma chute. Donc j'ai un petit peu de mal encore. Donc, c'est à nous de nettoyer notre corps, puisque notre âme est le corps mystique du Christ d'une certaine façon, puisque notre âme est le temple du Christ par le baptême. Eh bien, ce temple du Christ va véritablement contenir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion. Et cette association au corps mystique du Christ, qui est l'Église, se fait par la croix. Voilà. Donc, personne ne peut se glorifier si ce n'est en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle il est crucifié pour le monde. Alors, ce nombre 46, ne serait-il pas possible que ce nombre 40 appliqué au temple soit la figure des quatre éléments du monde et le nombre 6 le symbole du sixième jour où l'homme fut créé? Alors là, on rentre dans les explications de saint Augustin sur les nombres qui sont pas toujours faciles à suivre. Il n'y a pas de consensus des pères sur l'interprétation à donner au nombre. Parfois c'est clair, mais parfois c'est pas très clair. Même si saint Augustin, c'est pas toujours facile de le suivre lorsqu'il fait des digressions sur la signification des nombres, des chiffres rencontrés dans l'Écriture sainte. Alors, selon saint Augustin, qui va essayer de parler un petit peu de ce chiffre 46, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et vous le rétablirez en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. On peut dire que ce nombre 46 exprime convenablement la perfection du corps du Seigneur. En effet, 6 fois 46 font 276, c'est-à-dire 9 mois et 6 jours. C'est justement le temps où le corps de Jésus se développa dans le sein de sa mère jusqu'au jour de sa naissance, comme nous pouvons le conclure, la tradition de nos ancêtres, tradition que l'Église a revêtue de son autorité. Donc là, il y a des explications symboliques sur ce chiffre. Encore une fois, là, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre saint Augustin. C'est une bonne chose de lire un petit peu ce qu'il écrit sur le sujet, mais c'est pas très facile à comprendre. Bon. Vous verrez par vous-même que les pères de l'Église, d'autres pères de l'Église vont donner des sens totalement différents à ces mêmes chiffres. C'est justement le temps, donc le corps de Jésus se développe dans le sein de sa mère. C'est en effet le huitième jour des calendes d'avril, c'est-à-dire le 25 mars, que l'on croit que Jésus fut conçu et souffrit la mort. Et c'est le huitième jour des calendes de janvier, c'est-à-dire le 25 décembre, qu'il est né. Donc la tradition dit que notre Seigneur Jésus-Christ fut conçu un 25 mars et ça c'est certain, et souffrit la mort le 25 mars. Bon, cette date du 25 mars pour la mort de notre Seigneur Jésus-Christ peut fluctuer un petit peu selon les pères de l'Église. Mais ce qui est certain, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est bien né un 25 décembre. Par contre, les pères de l'Église ne sont pas toujours d'accord entre eux pour expliquer quand notre Seigneur Jésus-Christ est-il mort. Mais on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ naît un 25 mars et va souffrir la mort un même 25 mars, pour bien montrer le lien qui existe entre l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et la... Attendez, j'ai encore perdu le fil de mon... de ce que je suis en train de dire. L'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Et le jour de sa mort. C'est pour ça que les pères, beaucoup de pères pensent que notre Seigneur Jésus-Christ est mort le premier vendredi saint, qui était un 25 mars. Alors, il y a d'autres idées ici émises par les pères. J'ai résumé un petit peu en bas de la page 29. Je ne peux pas tout mettre. Tels sont les phénomènes progressifs de la conception de l'homme. Pendant les 6 premiers jours, son corps a l'apparence du lait. Durant les 9 jours suivants, ce lait se change en sang. Troisièmement, ce sang se coagule pendant les 12 jours qui suivent. Puis les organes se forment et les contours des membres se dessinent pendant 18 autres jours. Bon, ces explications des pères sont pas à prendre au pied de la lettre. Parce qu'encore une fois, les connaissances d'embryologie des pères étaient extrêmement limitées. Donc le corps commence à se différencier, les organes se différencient dès le début, et ce corps va continuer à se développer le reste du temps jusqu'à l'époque de l'enfantement. Ça, c'est par contre parfaitement exact. C'est donc point sans raison qu'on a mis 46 ans à construire le temple, qui était la figure du corps du Sauveur, mais pour que les années de sa construction fussent le symbole et l'image des jours pendant lesquels le corps de Jésus atteignit sa perfection. 46 ans pour bâtir le temple représente justement la vie, le résumé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et même un résumé de sa vie intra-utéro, parce qu'il était dans le sein de sa très sainte mère du 25 mars au 25 décembre. Donc ces 46 ans représentent ce temps passé, soit 9 mois et 6 jours, ce chiffre donc de 46 ans symbolise donc le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le temps pendant lequel notre Sainte Vierge Marie a porté en son sein le corps de notre Seigneur Jésus-Christ du 25 mars jusqu'au 25 décembre. Alors vous avez encore d'autres idées. Une autre idée qui me semble importante, c'est la suivante en haut de la page 30. Notre Seigneur a reçu son corps d'Adam, mais sans en prendre le péché. Il a donc reçu de lui le temple de son corps, mais non pas l'iniquité que doit être bannie de ce temple. Donc c'est l'iniquité qu'il faut bannir de notre temple. Notre temple, c'est notre âme. Malheur à celui qui garde l'iniquité dans son propre temple. Alors, ici, il parle du mot Adam. Ils font allusion à une coutume, une vieille légende qui n'a jamais pu être prouvée. Que le corps d'Adam, la tête, le crâne d'Adam aurait été enterré sous le Golgotha. Évidemment, l'idée est très belle. Le nouvel Adam qui vient mourir à l'emplacement exact où était conservé son aïeul, si vous voulez. Donc, le nouvel Adam meurt à l'endroit où est enterré le chef du premier Adam. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt pour rattraper le péché commis par le premier Adam, dont sont responsables, tous les hommes vont devoir souffrir. Cependant, je vous l'ai déjà dit, cette idée est mise par Saint-Père que le Mont Moria, le calvaire, donc, était le lieu d'ensevelissement d'Adam n'a jamais pu être prouvé. Des fouilles ont été faites et on n'a jamais trouvé exactement où était le corps d'Adam. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors avançons. Les juifs esclaves, en page 30, les juifs esclaves des inclinations de la chair ne pouvaient goûter que les choses charnelles, ne comprenaient pas le langage spirituel du Sauveur. Le corps du Seigneur est ici appelé le temple de Dieu, parce que de même que le temple de Dieu était rempli de la gloire de Dieu qui l'habitait, ainsi le corps de Jésus-Christ qui représente l'Église contient le Fils unique et qui est l'image substantielle de la gloire de Dieu. Donc encore une fois, le temple de Dieu est encore bien plus saint, bien plus vénérable que le temple de l'Ancien Testament qui ne comportait que l'Arche d'Alliance avec la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de la loi et une urne qui contenait la manne des anciens. Donc, pendant la traversée de la terre promise, la fuite d'Égypte vers la terre promise, eh bien, les Hébreux étaient nourris avec la manne, une espèce de laine qui se déposait sur le sol, qui était mangeable à condition qu'elle soit prise tout de suite. Donc, le corps du Seigneur est appelé le temple de Dieu. Il faut bien comprendre que notre âme devient le temple de Dieu par la vertu de charité. Donc le corps de Jésus-Christ qui représente l'Église contient le Fils unique qui est l'image substantielle de la gloire de Dieu. Donc on voit très bien que dans notre âme, d'après les Pères, notre âme représente ce temple. Notre âme devient le temple de Dieu quand elle est en état de grâce. Cela nous explique la catastrophe que provoque le péché grave dans une âme. Lorsque le péché grave rentre dans une âme, c'est exactement comme si vous faisiez rentrer un animal impur dans le temple. Vous voyez ? Parce que notre âme représente ce temple. Notre âme est le temple du Saint-Esprit. J'aime beaucoup cette phrase que je répète. Le corps du Seigneur est ici appelé le temple de Dieu parce que de même que le temple de Dieu était rempli de la gloire de Dieu qui l'habitait, ainsi le corps de Jésus-Christ qui représente l'Église contient le Fils unique qui est l'image substantielle de la gloire de Dieu. Donc de même que le Fils unique représente la gloire de Dieu, lorsque je reçois dans mon âme par la Sainte Communion le Fils unique de Dieu, eh bien je reçois en même temps la gloire de Dieu. Tout est uni, tout est lié. Un texte d'origine là, dans le sens analogique, nous parviendrons au complément de la foi au jour de la grande résurrection du corps entier de Jésus, c'est-à-dire de son Église, car la foi qui voit Dieu tel qu'il est bien différente de celle qui ne le voit que dans un miroir sous des images obscures. On ne peut pas voir Dieu tel qu'il est ici-bas, c'est impossible, sans mourir. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc ici on voit Dieu par l'intermédiaire de son humanité. Et même aujourd'hui, pour nous, en 2021, on ne voit même plus l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit une hostie consacrée. On sait que cette hostie consacrée contient véritablement, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a beaucoup de mal, justement, à aller plus loin. Donc il faut comprendre que lorsque je communie en état de grâce, je reçois le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, mon âme, qui va devenir le temple du Saint-Esprit, va devenir l'image substantielle de la gloire de Dieu. Donc mon âme devient comme un temple, comme le temple de Jérusalem au moment où je reçois la Sainte Communion. Donc il y a tout un symbole qui est là derrière. Alors, il y a eu trois bâtiments successifs du Temple de Jérusalem. Un petit cours d'histoire ici donné par les pères de l'Église. Le premier fut construit par Salomon et occupé pendant 7 ans. Le deuxième temple fut construit après sa destruction par les Babyloniens, par Zorobabel et ses compagnons, sous Cyrus, roi de Perse. Cette construction prit seulement 15 ans. Le temple aurait été occupé pendant 46 ans, mais cette dernière donnée est considérée comme fausse par beaucoup. Le troisième temple de Jérusalem fut reconstruit de nouveau par Hérode d'Ascalon, celui-là même qui assassina les saints innocents à Bethléem. Fit reconstruire ce temple 18e année de son règne par les Juifs afin d'assurer un royaume pour lui et sa postérité, espérant qu'il serait reconnu par eux comme le vrai Messie. Autre point d'histoire, le Christ naquit la 35e année du règne d'Hérode, 16 ans après le début de la reconstruction. Ajoutons 30 ans pour la vie du Christ, nous obtenons le chiffre de 46, qui est donc un chiffre symbolique. Pourquoi ? Parce que 6 fois 46 font 276, ce qui correspond au temps où notre Seigneur Jésus-Christ est resté dans le sein de sa mère entre le 25 mars et le 25 décembre, soit 9 mois et 6 jours. C'est pas, vous voyez, on voit très bien que les pères de l'Église ne sont pas entièrement d'accord là-dessus. Ça donne une idée justement de la grande liberté qui était donnée aux pères de l'Église. Donc il n'y a pas forcément un consensus entre tous les pères de l'Église. Il y en a qui disent par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ est resté dans le sein de sa mère 9 mois et 6 jours, mais strictement parlant, du 25 mars, arrivé notre Seigneur dans le sein de la Sainte Vierge Marie, jusqu'à la fête de Noël, c'est pas 9 mois et 6 jours, c'est 9 mois seulement. Donc il y a vraiment des contradictions un petit peu dans certains termes. On va finir le chapitre 2 de Saint Jean. Versets 23, 24 et 25. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom parce que voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il le connaissait tous, qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. Il savait que la plupart des gens qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ le suivaient parce qu'ils avaient été guéris miraculeusement, parce que ils avaient été nourris gratuitement, etc. Vous voyez, mais il y avait un manque de pureté de foi, si vous voulez. Il va falloir l'arrivée des apôtres et surtout l'arrivée de la fête de la Pentecôte pour qu'il y ait une purification de l'intention. Purification d'intention. Beaucoup des gens qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas des apôtres, mais des disciples, ou des, non plus pas trop, je ne parle pas trop des, ni des apôtres ni des disciples, je parle surtout des gens peu connus qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart du temps, ils suivaient notre Seigneur Jésus-Christ pour des raisons matérielles. C'est ce que vous disent les pères. Bon, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a eu des conversions magnifiques de gens qui se sont vraiment, véritablement, totalement convertis au cours de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début, évidemment, ils avaient été nourris, par exemple, par la multiplication des pains, nourris miraculeusement dans le désert à plusieurs milliers de personnes. Alors qu'ils n'avaient rien à manger, notre Seigneur va multiplier le pain, les poissons. Mais attention, notre Seigneur Jésus-Christ exige une pureté de foi supérieure. Pureté de foi supérieure. On suit notre Seigneur Jésus-Christ, non pas pour obtenir les consolations du bon Dieu, on suit le Dieu des consolations. Ça, c'est un peu le drame d'aujourd'hui. Tout chez les jeunes femmes, les femmes en général, qui sont très sensibles, qui cherchent les consolations du bon Dieu. Elles veulent bien prier à condition de sentir les consolations du bon Dieu. Mais ce n'est pas les consolations du bon Dieu qu'on cherche, c'est le Dieu des consolations. Ce n'est pas la même chose. En voyant les dernières lignes de la page 30. Les disciples qui s'étaient attachés à Jésus-Christ, non pour ses miracles, mais pour sa doctrine, avaient été les mieux inspirés. Donc ici, une distinction qui est faite entre ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ pour des raisons purement matérielles, parce qu'ils ont été nourris, et puis les disciples qui vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ, non pas pour ses miracles, mais pour sa doctrine. Donc il faut être capable de suivre notre Seigneur Jésus-Christ même si on n'a assisté à aucun miracle. N'oublions pas que pour nous, situation beaucoup plus difficile que pour les disciples ou pour les apôtres, parce que les apôtres ils voyaient au moins l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont eu plusieurs grands miracles, une petite vision de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous on n'a rien, on ne voit ni l'humanité ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit simplement une hostie consacrée. La foi nous dit qu'elle est consacrée, qui contient véritablement, spirituellement, de façon claire, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ces choses sont pas très faciles à accepter pour le monde moderne. Donc, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, même si on voit aucun miracle. Encore une fois, les apôtres voyaient le corps, l'humanité et une partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, au Tabor, ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ être transfiguré. C'est une manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, on voit pas tout ça. Mais on doit avoir une foi plus forte, justement, qui nous est donnée par le baptême. Donc, les esprits vulgaires sont attirés par l'éclat des miracles, tandis que les âmes plus élevées, en principe, c'est nous, sont beaucoup plus sensibles à la vérité des prophéties ou de la doctrine. Il faut les deux en même temps. L'avertissement salutaire de ne jamais nous reposer entièrement sur le témoignage de notre conscience, mais d'être toujours dans une craintive sollicitude, car ce qui demeure caché pour nous ne saurait échapper aux yeux du juge éternel. Il n'y a pas un iota de la foi qui passera sans que ça soit repéré. On voit très bien comment l'épître, l'évangile de Saint Jean a cette très grande hauteur de vue, beaucoup plus, je dirais beaucoup plus que les synoptiques. C'est pour ça que les modernistes ne peuvent pas supporter l'évangile de Saint Jean comme ayant été écrit au 1er siècle. Ils vont donc retarder l'évangile de Saint Jean, parce que justement l'évangile de Saint Jean est très élevé théologiquement parlant. Et les modernistes vont jusqu'à dire qu'il n'est peut-être pas possible pour un simple pécheur qui, comme était Saint Jean, pécheur de poissons, comme était Saint Jean, d'avoir écrit un évangile aussi élevé théologiquement parlant. Et donc, il a fallu attendre un certain temps, un certain nombre de siècles, pour que la doctrine catholique prenne corps et que petit à petit, il soit possible d'arriver au niveau de Saint Jean. Et en fait, c'est faux. Saint Jean a écrit son évangile avant la fin du 1er siècle. C'est pas exactement quand, vraisemblablement autour des années 97, 98, 99. On ne sait pas exactement. Pour cela que ces trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, sont beaucoup plus faciles à étudier que l'évangile selon Saint Jean. Donc, ce que je conseille beaucoup à chaque fois qu'on arrive comme ça, ici on arrive à la fin du chapitre 2 de Saint Jean, chaque fois que vous arrivez à la fin d'un chapitre, je vous conseille beaucoup de relire au moins le texte sacré du chapitre qu'on vient d'étudier. Et pour justement saisir la substantifique moelle. Et ça prend du temps. Le but de ce cours, c'est de nous faire découvrir, si vous voulez, la grandeur des évangiles, et surtout de nous donner envie d'étudier encore davantage les évangiles. De votre même chose avec une sainte messe, chaque fois qu'on assiste à la sainte messe, on devrait sortir de la sainte messe avec plus d'amour du bon Dieu qu'on en avait au début lorsqu'on est arrivé et qu'on a pénétré dans l'église. Si je n'ai pas augmenté l'amour du bon Dieu pendant la sainte messe, quelque chose qui ne va pas. Si je n'ai pas augmenté l'amour de l'évangile selon Saint Jean après le cours, ben c'est que le cours de la Béatitude, il ne sert pas à grand chose. Donc, étudiez, mes bien chers frères, et même pour ceux qui ont un petit peu de temps, je sais qu'il y a des gens qui étudient pour un peu de temps, n'hésitez pas à relire tout simplement ces pages. Prenez ça comme lecture spirituelle. C'est tellement une bonne façon de préparer la fête de Noël qui arrive dans quelques jours, mais c'est de relire tout simplement le texte du Polycopier, les premiers chapitres, notamment le premier chapitre de Saint Jean. Le premier chapitre de Saint Jean correspond à la fin de l'évangile, au dernier évangile qu'on célèbre à la fin de chaque messe. Donc, lisez le texte sacré, lisez le texte de l'évangile selon Saint Luc, lisez les commentaires des pères de l'Église, donnés qui sont résumés dans le polycopier de travail que je vous fournis, et pour ceux qui ont le temps, j'irai même réécouter les cassettes, réécouter les conférences de doctrine pour vous imprégner de cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ce ne sont pas des choses faciles. Mais accrochez-vous, même si c'est un petit peu difficile, même si j'ai du mal parfois à garder mes yeux ouverts. Encore une fois, je m'excuse si ces cours n'ont pas la la profondeur voulue, je fais un petit peu ce que je peux avec mes pauvres moyens actuels. Voilà, je vais terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.